bonjour à tous, vous êtes sur Radio Girafe, je suis Raphaël, le R de Girafe, et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Jaouen Durand. Nous allons passer quelques minutes dans la vie d'un entrepreneur de Jaouen Durand. Écoute, bonjour Jaouen.
Bonjour Raphaël.
Bon, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui, on se connaît depuis quelques années, et on va donc passer un petit moment avec toi. Donc pour commencer, j'aimerais bien que tu te présentes un peu pour nous dire d'où tu viens et qui est un peu Jaouen Durand.
Écoute, merci déjà de l'invitation, Raphaël. Donc, Jaouen, j'ai 49 ans. J'ai bientôt passé la
barre fatidique des 50 ans.
Des 50 ans. J'ai grandi en Auvergne. J'ai des origines bretonnes, ça se voit par mon prénom. Pour me présenter rapidement, j'ai fait des études d'ingénieur en production et ça m'a amené à bader pas mal. J'ai travaillé d'abord dans les bateaux. Dans Vendée, en fait, en construction de voiliers en l'occurrence. Et puis après, j'ai rejoint Paris pour faire du conseil informatique dans les années 2000. C'était un petit peu la mode à l'époque, où j'ai eu l'occasion de rencontrer ma femme, Sandrine, avec qui je suis marié depuis 20 ans maintenant.
C'est beau.
Et on a deux beaux enfants qui s'appellent Sian et Elouane. Voilà, c'est mes plus grandes fiertés, bien évidemment.
Bah, ça, c'est l'entreprise essentielle. Ça.
Voilà, exactement. Une carrière. Plutôt orienté dans ce qu'on appelle l'ingénierie d'affaires, donc recruter et proposer des missions à des consultants, d'abord dans le domaine de l'informatique industrielle, puis après la finance de marché. Donc j'ai fait ça une petite dizaine d'années, puis on est venu en Normandie pour avoir un cadre de vie meilleur qu'à Paris.
Qu'est-ce qui vous a amené en Normandie? C'est l'opportunité professionnelle
Pas du tout. En fait, on cherchait une maison secondaire au départ, et puis le deal s'est pas fait, comme ça arrive souvent dans l'immobilier, et il y a eu un problème de nounou à Paris, ce qui est assez fréquent, et c'était un peu un déclencheur en disant, finalement, notre vie parisienne, on s'était fixé 10 ans, ça faisait 8 ans qu'on y était, on s'est dit, bon allez, on franchit le cap, et puis on va ouvrir des gîtes et des chambres d'hôtes en fait en Normandie. Pour Sandrine, en fait, son activité. Et puis moi, je continuais à travailler en fait, à Paris pendant ce temps-là. Donc,
et là, tu étais salarié. Tu n'avais pas encore commencé ton
parcours. Oui, j'étais salarié, mais j'avais déjà un parcours. Donc, c'était ma deuxième boîte à Paris, mais plutôt dans des petites boîtes que je développais. En fait, plutôt un profil de développeur d'activité. Donc moi, j'étais directeur d'agence à ce moment-là, en fait, dans le domaine de la finance de marché. Et puis, donc, on a acheté une belle maison en fait, dans le pays d'Auge. Et voilà, un petit peu un truc un peu fou. Ma femme était enceinte, le bâtiment n'était pas fini. Enfin, des trucs qu'on fait.
Le début d'une histoire.
Exactement.
Et donc, tu faisais les allers-retours entre Paris et la province, et la Normandie.
À côté de Livarot, exactement. Ouais. Je partais le matin, lundi matin, 5h30. J'entrais le mercredi soir à 19h. Je partais jeudi matin à 5h. J'entrais le vendredi soir.
Donc, ça, c'était les années 2000 ah non, un peu après.
C'est les années 2007. 2007, on s'installe en Normandie. Et je fais ça pendant 2 ans. Et puis, en fait, au bout de 2 ans, en fait, c'était globalement pas tenable. Donc, je négocie mon départ dans l'idée de devenir entrepreneur, qui était quelque chose qui m'appelait depuis un peu toujours, en fait, en l'occurrence.
T'avais quel âge, là, alors
Et donc, là, j'ai 35 ans.
35 ans. Ah oui, donc tu es appelé vers l'entrepreneuriat, j'allais dire, un peu sur le tard.
Alors, sur le tas ou sur le tout, je ne sais pas. Parce qu'en
c'est vrai que c'est encore jeune, mais il n'y a pas beaucoup de...
Globalement, il y a des gens qui démarrent très tôt dans l'entrepreneuriat, ou alors plutôt très tard. Globalement, parce que moi, je me suis vite orienté vers la reprise d'entreprise, parce que j'avais plutôt un profil de repreneur. Et en fait, le repreneur, classiquement, il est plutôt une cinquantaine d'années, il s'est fait licencier d'un grand groupe, il a un chèque, et puis il se dit c'est maintenant ou jamais.
Et l'expérience qui va avec.
Et puis il se dit c'est maintenant ou jamais, en fait. Donc, moi, j'étais plutôt jeune dans ce profil-là de repreneur d'affaires, quoi.
Alors, donc tu arrives à Livarot, la maison, tu décides de quitter Paris et tu te dis, il faut que je me lance dans l'entrepreneuriat.
Exactement, et plutôt dans une activité industrielle. J'avais envie de retourner vers l'industrie. Moi, je suis un industriel de formation. Donc, produire, transformer un produit, c'était un peu moins virtuel que juste placer des consultants dans les grandes entreprises. Donc, je cherche en Normandie une entreprise industrielle. Et c'est comme ça que j'arrive au Havre, en fait, en reprenant une entreprise qui s'appelle Alupic, qui est une entreprise qui fait du pliage, qui fait des façades aluminium. Donc voilà, les Havrais connaissent par exemple l'école de la marine, qui sont les deux bâtiments qu'on faisait.
Le NSM. Hein.
Le NSM, exactement.
Ce qui m'intéresse là, c'est de savoir à quel moment, quand t'es salarié, enfin quand t'as un parcours, t'as quand même 2 enfants, donc t'es quand même chargé de famille, tu te dis, bon allez, banco, il faut que j'y aille maintenant. Qu'est-ce qui a animé ton choix?
Alors ça c'est drôle parce que donc c'est en 2009 que je pars de Paris en février 2009. Donc on est en pleine crise financière. Moi je travaille dans le domaine de la finance de marché, donc je suis au cœur du.
Ah oui, on est juste après la grosse crise de 2008.
Exactement. Je gagne plutôt très bien ma vie en plus, donc en fait j'ai que des raisons de pas le faire. Donc voilà, mais je dis souvent que l'entrepreneuriat c'est un petit peu comme médecine, c'est une vocation. Mmh. Donc il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais moment. Donc voilà, ce qui est sûr c'est que je voulais plus être aussi loin de ma famille et perdre tous ces moments-là avec ma femme et mes enfants. Donc en trouvant Ezama et Maré un peu, parce que personne n'y croyait vraiment à cette époque-là. Voilà, normalement, une entreprise, ça se fait dans son secteur d'activité, avec son réseau, dans son environnement géographique.
Et toi, t'es parti de zéro.
Moi, je suis
vraiment,
reparti de zéro.
C'était la feuille blanche.
Voilà, ouais,
j'ai c'était l'opportunité qui a fait que t'as trouvé cette entreprise et tu t'es dit, allez, c'est le.
Ah non. J'ai négocié mon départ, j'ai quitté et après, je me suis mis en recherche d'une entreprise. Donc, j'ai mis un an et demi à trouver l'entreprise.
Ah oui, donc tu t'es vraiment lancé dans le grand bain parce que.
J'avais pas de parachute, quoi.
Enfin, pas de plan B.
Pas de plan B. Si, mon plan B, c'était au bout de 18 mois, retourner à Paris puis reprendre un de salarié, quoi. Donc, mais non, globalement, il n'y a pas de plan B, ouais. Il fallait réussir. Ouais.
Et donc, comment ça se passe? Donc, tu arrives là, bon, la famille t'a installé, toi, tu commences à prendre des contacts locaux, parce que l'opportunité t'a amené au Havre, mais ça aurait pu t'amener ailleurs.
Je me suis dit maximum une heure de la maison. Bon, j'ai trouvé une heure, ce qui n'est pas de bol, mais en l'occurrence, non, là, c'est vraiment. Puis ça marchait opaque, donc là, tu descends. Contacte toutes les boîtes un peu industrielles, tu essaies de rencontrer le patron parce que personne ne dit je vais vendre mon entreprise. Donc tu cherches, tu fais partie de clubs de repreneurs, tu cherches les dossiers, tu as des intermédiaires. Enfin voilà, ça prend beaucoup de temps.
Il faut rentrer dans l'écosystème. Parce qu'on imagine que les bonnes affaires se transmettent de père en père.
Les gens
se connaissent.
Et puis en plus, les bonnes affaires en 2009, ça n'existait pas parce que tout le monde pensait que ça valait encore le prix qu'il y a deux ans. Sauf que les banques ne finançaient plus, donc c'était assez rigolo comme période.
Ouais.
Mais voilà, il faut être méthodique. Hein. Moi, je suis quelqu'un plutôt organisé. C'est certainement lié à ma formation. Mais je me lève le matin, comme pour aller au boulot, à 9h, je suis au boulot, et puis je descends des dossiers, je vais voir des boîtes, je fais 40 000 km en espace de 6 mois, et je vais voir les dirigeants.
Oui, donc c'est un vrai métier, parce que c'est intéressant, cette logique de reprise. On peut penser que sur la reprise, on a une appétence particulière parce qu'on connaît du monde. Toi, tu t'es vraiment mis en mode, c'est un boulot, il va falloir qu'aujourd'hui, j'aille trouver l'entreprise que je dois reprendre.
Exactement. Donc, tu apprends à lire des bilans, tu fais une formation, parce que globalement, moi, j'étais bon en business, mais alors pour analyser comptablement une boîte, vous ne savez pas. Donc, effectivement, il faut trouver, analyser, faire une valorisation, monter des dossiers de financement, etc. Donc,
Et tu t'es fait aider par l'écosystème ou...
Alors, je me suis fait aider, ouais. J'ai fait partie du club Accent, qui était sur le Havre. Il y avait Plateau et Accent. Donc, une qui était à Fécamp, avec le MEDEF de Fécamp à l'époque. Et puis, Accent, je crois, de mémoire. Hein. Ça remonte à quelques années maintenant. Donc, je venais à la CCI du Havre tous les mois. C'est des clubs de repreneurs, en fait, où on s'entraide. Parce que parfois, un dossier qui ne nous parle pas à nous, en fait, parle à un copain. Et donc voilà, puis on confronte nos idées, puis on est un peu seul aussi. Hein, donc voilà, quoi.
On en parlera après de la solitude de l'entrepreneur.
Ouais.
Donc là, une fois que tu as trouvé ce dossier-là, donc on voit le côté un peu méthodique, tu poses ton dévolu sur une boîte que tu identifies, donc qui est Alupic. Est-ce que tu as eu le choix?
Alors en l'occurrence, l'histoire un petit peu plus particulière que ça, en fait, c'est que j'ai jeté mon dévolu d'abord sur une boîte sur Carpiquet, à côté de Caen, qui était une métallerie qui était en difficulté. Et finalement, en fait, après des négociations avec un groupe, ce qui n'aboutit pas, j'ai tombé le dossier finit par tomber en RJ. Et il y a un club de repreneurs d'entreprise, hein, le CRA, donc, qui est une antenne au Havre. Et j'apprends qu'il y a un entrepreneur havré qui se penche sur le dossier, et je le contacte. Et je lui dis, tu ne peux pas et développer ta boîte et reprendre l'autre en même temps, donc il te faut un associé, et cet associé, c'est moi.
Ouais.
Finalement, le dossier, on n'arrive pas à le faire. Par contre, il me dit, moi, la boîte, je ne peux plus la développer tout seul, donc si tu veux, je te revends une petite moitié de ma boîte et on redéveloppe ensemble. Donc c'est vraiment en fait, des itérations et être ouvert à des schémas un peu alternatifs.
Et le mouvement, parce que c'est le mouvement qui est important. Souvent,
exactement.
On peut être pris par le fait de ne plus bouger, une forme d'immobilisme. Mais quand tu veux créer, il faut se lever le matin, il faut être méthodique et puis il faut rencontrer. Quoi.
Et puis il faut s'adapter. Je pense qu'un entrepreneur, avant tout, c'est quelqu'un qui sait s'adapter. Donc si tu ne sais pas adapter, la force d'une PME ou d'une TPE, c'est exactement ça.
Et c'est le rebond.
C'est le rebond, c'est de dire, si ce n'est pas comme ça, ce sera autrement. Si j'irai pas à Caen, j'irai au Havre. Si j'irai pas au Havre, j'irai ailleurs, ce n'est pas très grave.
Ouais, donc il faut ouvrir le champ du possible.
Et de fermer rien. On ne sait pas de ce qui peut se produire en fait d'une opportunité.
Surtout donc, que tu n'avais pas d'idée particulière sur un secteur d'activité. Toi, tu voulais. Alors, tu l'as dit un peu plus industrie, mais tu étais assez
ouais,
ouvert.
Oui, mais juste avant, j'ai fait reprendre deux magasins qui étaient dans le meuble exotique, qui faisaient fabriquer en Asie. Donc là, c'était du pur business. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'une boîte, elle te parle, en fait. Des fois, tu rentres dans une boîte, tu sens qu'elle ne te parle pas du tout. Et puis d'autres, tu rentres, tu y es depuis deux minutes et tu dis, mais je vais la faire exploser, quoi. Donc, non, voilà.
Il y a un côté très sensible.
Ouais, il y a vraiment une rencontre sur une PME. De toute façon, déjà, une boîte, c'est un patron. Donc, en fait, si tu t'entends avec lui, ça peut aller. Parce qu'après, tu es en continuité.
Oui, puis après, on parlait de la solitude d'entrepreneur, mais on va parler aussi de l'association, parce que c'est un vrai sujet. Là, j'ai mené quelques interviews. On voit bien que l'association, c'est quelque chose de compliqué. Mais bon, on n'en est pas encore là dans ton histoire. Là, quand tu en arrives là, tu te dis, bon, OK, j'ai trouvé la structure. Donc, ouais. C'était finalement... la personne dont tu parlais sur ton premier dossier qui va devenir ton associé.
C'est ça.
Sur Alupic.
Enfin, sur le premier dossier, il n'était pas. Il vient après sur le premier dossier. Ouais. Finalement, on ne le fait pas. Et donc, il me dit, bah, tiens, si tu veux, rejoins-moi dans l'aventure Alupic.
Donc ça, c'est 2010 ?
C'est 2010, ouais. Je m'associe en juin 2010. Donc 15 mois ans, après avoir quitté mon job.
Ce qui est assez rapide.
Ce qui est plutôt rapide. Ah, ouais, ce qui est plutôt rapide. Mais encore une fois, assez méthodique, donc du boulot. Donc, non,
voilà. Donc la méthode. Parce que le but de ces interviews, c'est les conversations, mais c'est aussi d'essayer de passer des messages à ceux qui seraient intéressés pour passer. On parlait de l'âge, mais il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Mais c'est intéressant aussi de transmettre un peu des savoir-faire un peu opérationnels qui ont été éprouvés. Et ça en fait partie.
En fait, entrepreneur, c'est un job. Donc, entrepreneur, c'est un job. Repreneur, c'est un job. Donc, en fait, si on fait ça à la rente dilettante, ça ne marche pas. J'ai vu beaucoup de candidats à la reprise qui ne voulaient pas quitter leur job en disant « je vais faire ça en même temps ». Le taux de réussite est très, très, très faible. Parce que, globalement...
Oui, c'est un investissement total.
Il faut bosser 8-10 heures par jour sur la reprise. Alors, c'est long, hein, parce qu'il y a des moments de creux où on se lève le matin, on ne sait pas quoi faire. Bah, prends ta bagnole et puis va prospecter et puis va prendre des contacts et puis voilà, quoi. Et puis, quand on est en week-end, bah, c'est un job. En fait, c'est pas compliqué, c'est un job. En fait, donc il faut le prendre comme tel.
Donc là, tu réussis donc, à identifier. Et là, vous voilà parti. Donc ça, c'est l'entreprise Alupic. Tu rejoins cette société donc, qui était déjà existante depuis quelques années.
Qui était existante depuis une vingtaine d'années. Qui a été qui a été reprise par mon ancien associé 3-4 ans plus tôt. Donc il reprend, la boîte est plutôt en difficulté, il la restructure bien, il la développe bien, il est en rentable. Et le but, c'est vraiment de la structurer derrière, donc encore une fois, mon schéma industriel, etc. Et donc effectivement, la boîte, en l'espace de 3 ans, on multiplie par 2,5 ou 3 le chiffre d'affaires, et puis on lui donne une ampleur un petit peu différente.
Tout en conservant la rentabilité, parce que j'imagine
alors,
que c'est...
Parce
que
en c'est, conservant c'est... la rentabilité, oui. Alors ce qui montre aussi, c'est qu'à un moment, quand on arrive à un certain volume, ça donne plus de stabilité à l'entreprise. Par contre, on a du mal à la rendre aussi rentable aussi. Bon, après, on était deux dirigeants aussi en même temps, donc il y a plein de sujets. Mais on a toujours été rentable, on a toujours préservé la rentabilité. Enfin, une entreprise qui n'est pas rentable, elle meurt. Donc, voilà.
Oui, c'est quand même. C'est le, on en parlait justement, notamment avec Nicolas Sarrazin, c'est le nerf de la guerre, c'est quand même c'est la marge. Hein, parce que faire du chiffre d'affaires, c'est une chose. Il faut vraiment avoir tout le temps à l'esprit que cette rentabilité, cette marge opérationnelle, elle est quand même primordiale.
On est sur des métiers bien différents avec Nicolas. Sur l'industrie, non, mais le niveau de rentabilité, en fait, est très faible. On investit toujours en permanence, c'est très capitalistique. On a de moins en moins d'industrie. En l'espace de 20 ans, on a perdu la moitié du PIB sur l'industrie. Enfin, c'est quelque chose de très important. Parce qu'on investit tous les ans beaucoup plus que son résultat. Donc ça reste quand même très capitalistique. Les machines coûtent cher, le stock coûte très cher, l'humain coûte très cher. Donc voilà, la rentabilité sur l'industrie est faible.
Oui, alors sans parler peut-être de marge de réinvestissement. En tout cas, c'est s'assurer justement, comme tout ça est quand même très financièrement lourd, il faut quand même tout le temps être très vigilant parce que ce que tu disais, c'est que ce sont des investissements sur du moyen et du long terme. Donc il faut avoir vraiment une vision très très lointaine.
Et puis il faut être très méthodique parce que quand on gagne pas beaucoup d'argent, en fait, les personnes du trait, en fait. Quand on fait 20% de résultats, c'est plus facile de se tromper. Quand on fait 2, bah plus 2 moins 2, parfois, c'est pas grand-chose. Quoi.
Et là, la boîte, vous étiez combien à ce moment-là ?
Écoute, quand je rejoins la boîte, je crois qu'on est 14 et on est monté à 47 ou 48 personnes. Ouais.
Ah oui, donc tu as connu aussi toute la complexité du recrutement. aller chercher les bons profils.
Le recrutement, l'explosion de BFR, le déménagement, la structuration de la boîte, la mise en place de normes, enfin, ouais, tout le schéma.
Un 360 très lourd.
La structuration était au cœur de toute la vie de toute cette vie-là entrepreneuriale, bien sûr. Ouais.
Et alors, donc, du coup, vous êtes associé. Ça a duré combien de temps vous êtes,
Ça a duré 8 ans.
8 ans. Donc, 8 ans d'association.
Oui.
Donc, vous étiez vraiment en croissance. Ça se termine.
Ça se termine mal, ouais, ouais. Mais bon, ça c'est comme l'histoire de couple, hein, globalement, voilà, l'association, toujours l'association, c'est comme un mariage, sauf qu'il n'y a pas le sexe pour se réconcilier, bon, en l'occurrence, voilà, on s'est pas réconcilié, ça a dû s'arrêter, donc c'est pas très grave, ça fait partie des événements de vie. Hein.
C'est un vrai sujet, ça, d'ailleurs, s'il y avait un conseil à donner, parce qu'on voit bien que les histoires d'amour finissent mal en général, on voit bien que tout le monde au début est tout fait tout flamme, et on veut vraiment... Ce serait quoi, toi, le point qui pourrait faire qu'une association soit vraiment pleine et puisse éviter cet écueil, parce que je ne connais pas les statistiques, mais j'ai plutôt l'impression qu'on doit être dehors de 70% des associations qui ont tout le temps une difficulté à perdurer, même si les arbres ont brossé, il faut bien à un moment se séparer. Ouais. Je connais pas la stat, mais quel serait pour toi le conseil à donner pour qu'une association, justement, évite de partir... Alors, il y a des tonnes de raisons de se séparer. Mais quand on voit souvent que c'est une divergence de point de vue ou une reprise capitalistique ou une envie de pouvoir, j'en sais rien.
Oui, alors effectivement, il y a des divergences de point de vue, mais ça, c'est aussi la richesse d'être deux par rapport à tout seul. Donc, moi, aujourd'hui, on en parlera plus tard, mais qui fait du conseil auprès des dirigeants, c'est quand même assez important. C'est bien d'identifier le facteur qui permet de garder la communication, ce qui fait que ça fonctionne plus, c'est qu'on arrête de se parler, hein, bien évidemment. Moi, si c'était à refaire, moi, je ne suis pas du tout fermé à me réassocier. Mais je pense qu'être à presque moitié-moitié... Alors moi, j'étais à 49-51, ce qui était une vraie connerie, à mon sens.
Tu penses que le 50-50 est...
Alors, le 50-50 est dangereux parce qu'en fait, on peut faire tuer la boîte parce que globalement, à 51-49, l'avantage, c'est que s'il y en a un qui décide, en fait, il est majoritaire, à un moment, il a raison. Donc voilà. Mais je pense que c'est plus sain d'être à 70-30. Ou à 60-40 en disant il y a un patron, il y a un DG. Mmh. Donc on est un super salarié, peu importe. En fait, on capitalise aussi, mais par contre, on se dit ok, c'est compliqué d'avoir deux capitaines à la barre. Et ça, vraiment, je l'ai ressenti quand c'était difficile. Quand tu dis noir, que tu dis blanc, et vice versa.
Ouais, ça crée un immobilisme. Ouais, et puis on passe plus de temps à se demander où est le pouvoir plutôt qu'à développer la boîte. Quoi.
Et puis socialement, les collaborateurs ne sont pas très bien non plus. Hein. Enfin, il faut quand même imaginer qu'on a quand même du monde qu'on embarque avec nous. Hein. Donc voilà, c'est un équipage. Hein. Donc,
Le rapport aux gens avec lesquels tu travailles est important. Parce que c'est vrai que
tu es un peu responsable quand même. Donc voilà. Donc je pense qu'il vaut mieux être clair en disant il y a un patron, etc. Ou alors si quand on est à 50-50, moi j'accompagne deux dirigeants aujourd'hui, ils ont chacun leur voix. Il y en a un qui est plutôt sur la partie technique, la partie commerciale. Et puis après, il faut avoir un plan stratégique clair et surtout communiquer. Quoi. Vraiment, vraiment communiquer.
Alors moi, on m'avait parlé, c'était un entrepreneur en son temps qui m'avait dit le meilleur moyen, mais c'est le plus dangereux, c'est de trouver un troisième associé à 2%, adoubé par les deux associés fondateurs, pour arriver à être un peu ce juge de paix objectif. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Parce que je trouvais que c'était assez astucieux de dire quelqu'un d'un peu détaché.
À 2%, on s'en fout un peu. Honnêtement, c'est pas très grave.
Non, mais après, donne la majorité à l'autre.
Si... Ouais, mais encore une fois...
Il peut trancher sur une majorité.
Je pense qu'il vaut mieux en fait trancher l'actionnariat. Ou alors, si on en a 3, OK, bah, peut y avoir, par exemple, 60-20-20 ou 70, enfin, peu importe la répartition. Mais oui, la dualité est toujours compliquée à un moment. Ouais. Hein, donc, il faut avoir la même trajectoire de vie. Puis en fait, on vit séparément, on a chacun nos attentes, chacun nos familles.
Des évolutions aussi de parcours différents.
C'est ça. Et puis la vie d'entrepreneur, c'est dur. Donc la vie de famille est dure avec un entrepreneur. Donc il y a un moment où on peut comprendre aussi que nos conjoints ou nos conjointes, en fait, ont des attentes qui sont différentes. Et ça avance. Et ça peut forcément tendre les rapports aussi derrière. Hein.
D'ailleurs, ça m'amène à une question. Est-ce que quand tu as entrepris, et quand donc, tu te lances dans cette aventure de la reprise d'entreprise, tu as une vision de, je le disais tout à l'heure, les arbres montent pas au ciel, tu avais un niveau de sortie de ton entreprise. Parce que souvent on entreprend en se disant, je vis le moment présent et puis je vais vers un développement sans avoir vraiment de stratégie de sortie. Est-ce que toi, tu avais identifié, au-delà du fait que là, vous avez une sortie ou qui s'est faite, mais est-ce que tu avais imaginé, techniquement parlant, des seuils en te disant, bah, moi, quand j'arriverai là, voilà, ça, c'est mon objectif. Objectif atteint, je remets les cartes sur table. Et puis,
Alors, je n'ai pas de seuil financier. Par contre, j'avais un target en termes de timing. Bon, il se trouve que j'avais 9 ans d'écart avec mon associé. Mais par contre, je me suis toujours dit, vers 50-50-50, travaille différemment, parce que voilà, 60-70 heures par semaine, c'est sympa, mais voilà. Donc c'était de faire en sorte d'avoir suffisamment de capital pour pouvoir être tranquille à ce moment-là, et puis continuer de travailler, peut-être en conseil ou autre chose derrière. Donc oui, je développais ma boîte.
De conserver la boîte comme un...
Mais en gros, ça permettait de libérer chacun en fait, sa participation pour se recéder à un concurrent ou un groupe, parce que bon, la boîte atteint une taille quand même assez significative, donc du coup, avait une valorisation qui était intéressante avant que je parte, en tout cas.
Oui, c'est pour ça qu'à un moment donné, tu peux aussi te poser la question, dans les différentes interviews que j'ai pu mener, savoir à quel moment je dois vendre, à quel moment je sortir du projet ou redonner un coup de collier pour passer à l'étape d'après. Là, tu me disais que vous étiez 47 salariés. C'est vrai qu'on voit bien qu'on est à la croisée des chemins, 47.
Ouais, enfin, le dogme des 50 salariés, pour moi, ça reste anecdotique, c'est pas le problème. Par contre, moi, j'ai toujours été potentiellement cédant. C'est-à-dire que je suis convaincu et je pilote mon business, même aujourd'hui, une boîte qui est bien gérée, elle est cessible à tout instant. Donc ça veut dire que même au bout de 5 ans, si on me dit, bah, tiens, je te rachète ou on a un bout de chemin à faire ensemble et il y a une bonne opportunité, il faut toujours réfléchir, dire, le train passe, je monte dedans ou je monte pas dedans.
Enfin, c'est pas d'autant plus vrai en plus aujourd'hui où les choses vont quand même de plus en plus vite. Alors, ouais, c'est tellement vrai dans l'industrie, tu me diras. Parce que
c'est vrai dans tous les business. En fait, une fois que tu gères bien ta boîte, globalement, un jour, tu séduis quelqu'un et tu dis, bah, tiens, je suis prêt à te faire un chèque. Tu prends pas, peu importe, mais par contre, au moins, tu...
En connaissance de cause, tu fais ton choix.
Il faut toujours être prêt, en fait. Ouais. Et si tu gères bien ta boîte, elle est facile à vendre.
Ouais, donc ça, c'est un bon conseil. C'est de dire que le quotidien a un impact énorme, puisque l'impact de la gestion au quotidien te permet de mettre en ordre de marche une structure que tu peux céder à tout moment.
C'est quand même une vraie liberté. Quand même. C'est tout ce que je fais avec mes clients aujourd'hui en accompagnement.
D'ailleurs, on va passer là-dessus. Donc, c'était intéressant, parce qu'on voit que ce que je trouve intéressant dans ces parcours, c'est de voir comment d'abord on bascule de, entre guillemets, du confort, ce qui n'est pas toujours un confort, hein, du salarié, puisque parfois ça d'autres, on le sait bien, vers ce premier chemin d'entrepreneur. Donc là, tu as pris la voie de la reprise. Ton histoire dans Calupic se termine.
Ouais.
Et là, quand une histoire se termine, il faut rebondir.
Là, c'était un peu compliqué parce que la fin a été douloureuse, en l'occurrence. La grosse différence que quand tu es salarié, c'est que quand tu t'arrêtes en tant qu'entrepreneur, tu as zéro revenu.
C'est vrai qu'il y a un vrai confort dans le salariat.
Puis tu as l'ACRE qui existe en France pour t'aider à reprendre ou acheter ou créer une entreprise. Alors que là, tu puisses dans tes réserves. Donc forcément, on s'est fâché, on ne s'est pas racheté mutuellement, vendu, etc. Donc, il a fallu se reconfigurer et puis trouver un business rapidement pour pouvoir en fait rebondir derrière. Je pense qu'on a toujours envie d'être ce qu'on n'a pas été. Moi, j'étais un développeur, j'étais un repreneur, parce que je n'étais pas quelqu'un qui avait une intuition de création, etc. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, quitte à y aller, autant créer quelque chose. Au moins, j'aurais fait le tour de l'entrepreneuriat. Et donc, j'ai lancé effectivement deux activités. Une première qui était assez rapide à mettre en œuvre potentiellement, qui était de transmettre aux dirigeants ce que j'avais, moi, fait dans mes entreprises.
Donc là, on est vraiment dans le conseil.
Soit quand j'étais directeur de commercial ou alors quand j'étais patron de ma boîte. Où là, c'est aider justement les boîtes à se structurer, parce que finalement, on se rend compte que avoir un budget, avoir de la méthodologie, beaucoup de patrons PME l'ont pas. Mm-hmm. Et ça apporte un vrai confort de vie. Parce qu'en dehors de la rentabilité de la boîte, c'est aussi pouvoir dormir sereinement, avoir du recul, etc. Donc là, c'est aussi tuer la solitude du dirigeant.
Je te coupe, mais il y a un paradoxe. C'est-à-dire que tu as été capable, je ne sais pas si c'est un paradoxe d'ailleurs, mais tu transmets par le conseil des choses, des situations auxquelles toi tu as été confronté, dans lesquelles tu n'es pas forcément clairvoyant parce que le quotidien d'une entreprise, tu ne le vois pas. Et toi, tu accompagnes donc les dirigeants à prendre ce recul. Et ton expérience d'entrepreneur te permet de leur faire un peu ouvrir les yeux. On parlait de l'effet de miroir et de la solitude.
Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que le fait d'avoir entrepris, d'avoir une fin qui était compliquée mais sans clairvoyance, fait qu'à un moment, quand tu t'arrêtes, tu prends ce temps de pause que moi j'ai pris pendant 4 mois, tu me rappelles les choses, si tu es honnête avec toi-même, en fait, tu décèles des éléments que tu as dû voir avant. Et puis tu te rends compte de ça. Et
ça t'a replongé dans ta propre histoire de t'entendre dire, ah tiens, c'est amusant parce que ça, je sais pas si ça a été le cas, Je le vois aujourd'hui chez les gens que je conseille, mais je n'ai pas eu peut-être l'objectivité au moment où je le vivais dans ma propre boîte.
Bien sûr, bien sûr.
Ça, c'est vachement intéressant, parce que ça veut dire que quand on entreprend, on n'est pas toujours...
J'ai une vraie prise de conscience, et typiquement, les gens avec qui je travaille aujourd'hui en accompagnement, j'ai toujours une première phase où je comprends leur histoire. Un petit peu ce qu'on discute là rapidement, donc ça dure... En général, une demi-journée ou une journée ou deux demi-journées.
Là, tu t'immerges.
Et là, je m'immerge avec eux, en fait, et je leur dis, mais si je ne peux pas vous comprendre, je ne peux pas vous aider. Et en fait, ce qu'il faut déceler, c'est vos stratégies personnelles. Et beaucoup de dirigeants ont une stratégie d'entreprise, mais occultent complètement leur partie perso. Et je dis, mais si tu n'as pas une stratégie personnelle pertinente, tu ne peux pas avoir une bonne stratégie d'entreprise. Parce que ton entreprise, c'est toi. Donc, globalement, il y a quelque chose qu'il faut arriver à lier.
Oui, ça rejoint un peu la question que je te posais tout à l'heure, de savoir... Quel est l'objectif, quand même, moyen-long terme de ton action quotidienne?
Même au quotidien, en fait, c'est quoi ta vie? C'est quoi que tu aimes dans la vie? Est-ce que tu prends du temps pour avoir du temps avec tes enfants?
Oui, il n'y a pas de projection. Oui,
C'est juste de dire aujourd'hui, est-ce que tu es heureux dans ta vie? Est-ce que ça répond à tes attentes? Donc, ça permet de dire déjà aux deux, ça met déjà le doigt sur un certain nombre de points, très souvent. Ça me permet de moi aussi de savoir si j'ai envie de travailler avec ces gens-là. Et puis, effectivement, après, on se projette et puis on échange et puis mettre des outils assez simples en œuvre pour permettre de respirer un peu. Quoi.
Et là, tu es confronté à des entrepreneurs, mono-entrepreneurs, ou tu accompagnes aussi des entrepreneurs associés?
Les deux.
C'est pas le même exercice.
C'est pas un exercice, surtout quand tu vois les deux individuellement.
Oui, alors parfois, ils ne sont pas toujours...
Mécaniquement, ils n'ont pas les mêmes attentes, même si elles sont parfois convergentes, elles sont parfois divergentes aussi. Donc après, c'est de dire, typiquement, faites attention de comment vous communiquez et puis sur quel spectre vous allez pouvoir continuer à communiquer. C'est encore différent quand j'accompagne des dirigeants qui sont potentiellement en association avec un groupe ou avec un fonds. C'est encore autre chose. Mmh. Pour autant, il faut que ça fonctionne. Alors, au fond, forcément, je ne vais pas interviewer. Par contre, il faut être clair avec le dirigeant de dire, OK, si tu as fait ce choix-là de développement, parce que c'est parfois une nécessité, est-ce que tu es bien conscient des impacts que ça va avoir pour toi?
Et là, quand tu les accompagnes, tu as un rôle, plutôt un rôle d'indépendant aujourd'hui, tu n'as pas de salarié.
Non.
La question sur l'entreprise, elle revêt de multiples facettes. Le fait de ne pas avoir de salarié aujourd'hui, c'est quelque chose qui te manque. C'est intéressant de voir moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi le côté organisationnel. Est-ce que c'est quelque chose qui te manquait, qui faisait partie de ton ADN quand tu avais. Ou est-ce que tu le retrouves
Alors, le fait de ne pas avoir de salarié, ça m'offre une liberté incroyable et une qualité de vie dont j'ai pâti quand j'avais beaucoup de monde, une boîte qui était quand même assez significative. C'est limitant aussi parce que finalement, en fait, mes business, aujourd'hui, j'ai plusieurs business et si j'avais plus de monde, je pourrais mieux les développer. Après, j'ai un vrai garde-fou qui est ma femme, qui me dit qu'est-ce qu'on aura de plus avec du monde et qu'est-ce qu'on aura en moins surtout. Le sujet social aujourd'hui, c'est un vrai sujet quand même.
Actuellement, en parlait, c'est quand même.
C'est malheureusement un peu lourd. J'ai beaucoup de clients qui parfois arrêtent l'entrepreneuriat ou en tout cas vont sur des jobs indépendants parce que socialement c'est quand même compliqué. Il y a une question générationnelle, la génération Z et puis après les 2000 et puis les 2010 qui arrivent, etc. Fondamentalement, c'est eux qui ont raison, parce que c'est eux qui vont faire tourner le monde demain. Donc, il tournera différemment, je ne sais pas comment, mais en tout cas, il tournera différemment. Pour autant, quand on est entrepreneur et qu'on doit s'appuyer sur des équipes et qu'il y a une volatilité tellement importante et des...
Et puis toi, dans l'industrie, on ne peut pas faire tourner de l'industrie sans hommes.
C'est pour ça que du coup, je suis reparti vers du service à 100%.
Produit, il faut...
Moi, j'ai pas mal de clients qui sont dans l'industrie aujourd'hui, donc ça me satisfait un peu mon besoin intellectuel. C'est quand même un peu limitant, effectivement. J'aimerais bien, dans l'idéal, c'est quand même quelque chose qui me manque un petit peu. Ouais.
Bah donc finalement, tu arrives à combler un peu ce petit manque en vivant de façon un peu transposée la vie de tes clients.
Exactement.
Et donc tu décides de te mettre à ton compte et de devenir indépendant.
Ouais.
Tu as d'autres activités.
Oui, en fait, le conseil finalement, ça reste que 20% de mon activité. Le gros de mon activité, en fait, je suis devenu broker en immobilier d'entreprise parce que c'était un métier où j'avais eu l'occasion de déménager des locaux à Paris. Puis après, j'ai déménagé mon usine. C'est un métier où il y a beaucoup de valeur ajoutée à apporter. J'ai constaté qu'un agent immobilier répondait à mon besoin de type de locaux, mais il n'y a pas de remise en question, mais pas d'accompagnement, etc. Donc je me suis dit, tiens, il y a un métier, il y a la valeur ajoutée.
C'est assez complémentaire d'ailleurs.
C'est complémentaire. Il y a des boîtes où je fais toute la structuration complète de l'implantation de leur unité de production. Ouais.
Il y a un fil rouge.
Exactement. Exactement.
D'ailleurs, c'est assez intéressant quand on voit. On parlait de. Tu vas avoir 50 ans bientôt, mais l'innovation, et on voit bien qu'en ce moment, l'économie prend un tournant. On peut fantasmer autour du tournant qu'elle prend. En tout cas, il y a une réalité sur l'intelligence artificielle, cette innovation by que vaille. Le monde est en train de changer, au moins d'un point de vue technologique, digitalisation depuis ces dernières années. Je trouve intéressant le fait d'arriver à avoir plusieurs activités mais qui sont liées les unes aux autres. Est-ce que toi, tu as une vision, parce qu'il nous reste encore quelques années à travailler, quelle vision tu aurais de l'innovation dans la façon dont l'entrepreneuriat va peut-être se projeter dans les années à venir? Est-ce que tu ressens des choses avec tes clients? Tu disais que certaines de chefs d'entreprise sont appelés un peu par les sirènes de l'indépendance pour alléger tout ça. Ça veut dire que ça va avoir un impact énorme.
Oui, alors l'IA va être une vraie révolution. Je fais pas partie des gens qui disent que ça va tuer l'emploi. Ça va juste créer des nouveaux emplois, en fait. Ça va déplacer les compétences.
Oui, enfin, je parle de l'IA, je parle de l'innovation.
Oui, mais c'est un exemple. Mais effectivement, l'IA aujourd'hui, dans mon métier immobilier, je m'en sers tous les jours, quasiment. On a des outils aujourd'hui incroyables qui nous font gagner beaucoup de temps, qui augmentent la concurrence aussi en parallèle. On a un monde qui va plus vite, mais qui n'est pas complètement structuré. Donc, en fait, globalement, la structuration permet de gagner en performance et en précision. Donc, quand on utilise bien les outils, c'est vraiment pertinent parce qu'on va pouvoir avoir des aides à la décision. Globalement, qui vont être plus pertinents que tuer l'intuition en fait, un peu du dirigeant, parce que c'est quelque chose qui est important quand on connaît bien son métier. Il y a un moment où on dit, tiens, je vais aller par là plutôt que par là.
C'est de mesurer la marge d'erreur.
Mais par contre, en fait, bien étudier une analyse de marché, une tendance de marché, un type de produit qui va pouvoir exister, la révolution énergétique, en dehors de l'écologie même, mais la révolution énergétique, elle est incroyable. Hein. Ouais. Une révolution, elle a un nouveau système de communication, un nouveau système d'énergie. Aujourd'hui, l'énergie, c'est une transformation qui est fulgurante. Et on voit dans les bâtiments, mais on voit aussi dans nos usages au quotidien, etc. Donc voilà, il y a plein de choses qui vont se créer.
C'est vrai que ça a beaucoup évolué, parce que ce qui était un peu du greenwashing dans les années, on va dire, 2014, enfin de 2010,
il y a 10 ans,
quoi. Est devenu quelque chose qui n'est plus un vain mot. C'est que tout le monde a une vraie prise de conscience, une vraie volonté de le faire. Je pense qu'avant, on voulait vraiment se donner une bonne image. Et là, on voit qu'il y a quand même des métiers incroyables qui sont en train de graviter autour de tout ça, en train d'émerger, et dans tous les secteurs de l'activité.
La prise de conscience, peut-être, je pense plutôt que le premier vecteur de l'innovation, c'est la contrainte. Et c'est à ça que servent aussi les politiques.
Là, c'est l'industriel qui parle.
Non, c'est une vérité, en fait. Globalement, demain, tu as un problème, tu n'as pas d'outils, tu vas trouver une solution. Donc, si pour changer ta roue, tu n'as pas d'écrou, tu vas trouver une solution, donc tu vas innover. Donc, c'est industriel ou pas industriel, c'est pas le sujet. Par contre, en fait, aujourd'hui, on sait qu'on n'a plus d'énergie, on sait que ça coûte cher, donc on est contraint, donc on innove. Donc, globalement, on se fait à l'idée. Donc, je pense qu'on s'est plus fait à l'idée de besoin de changer d'énergie, d'économiser, etc. Bon, après, on nous rabat ça à longueur de journée. Enfin, il faut garder le moral aujourd'hui quand tu écoutes les infos, honnêtement. Mais
c'est pour ça qu'on fait des conversations.
C'est ça. Au moins, c'est détendu, c'est cool. Et voilà. Mais non, mais globalement, en fait, l'énergie, on nous a contraints, ça coûte cher. Donc, il faut trouver des solutions. Donc, et tout ça va dans l'air du temps. Il y a 5 ans, on disait tous les bagnoles vont être électriques. On disait c'est une connerie. Aujourd'hui, une voiture sur 5 est vendue, elle est électrique. Bon, bah ok, bah dans 5 ans, ça sera 100%. On ne sait pas comment on va les alimenter encore. Il y a encore plein de sujets à régler, mais...
Je te propose qu'on fasse une petite pause. Tu as un titre que tu veux écouter fait une petite pause musicale.
Eh bien, écoute, la musique que je mets le matin quand j'ai la pêche, j'écoute la boîte de jazz de Michel Jonas.
Eh bien, on se retrouve après la boîte de jazz de Michel Jonas par Jawin Durand. À tout à l'heure.
Un peu naze, je descends dans la boîte de jazz, histoire d'oublier un peu le cours de ma vie. Les gars me regardent énervés,
ils interpellent.
Hey, Gus, tu connais Charlie Mingus?
Oh, par cœur, je connais par cœur.
Hey, fils, le nom est Davis.
Aussi, le connais aussi. J'aime tous les succès de Duke Ellington. Tous les standards, ce qu'a fait personne. Rien ne l'entend, c'est Scott Hamilton. Duke Ellington.
Ok, 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 ok.
J'avance doucement et je rase les murs de la boîte de jazz. Arrivé pétrifié jusqu'à la scène. Dans un coin, un orgue m'attire. Ça y est, je transpire. Timidité surhumaine. Et si c'était la chance de ma vie, je me lance, allez, tant pis.
Nous voilà de retour sur Radio Girafe avec Jaouen Durand. On a eu le plaisir de pouvoir échanger dans cette première partie d'interview sur ton parcours. Je te propose maintenant qu'on passe sur cette deuxième phase d'interview sur Le Havre. Genre de conversation sur Le Havre. L'idée, c'est d'avoir un peu ton ressenti sur Le Havre, ses perspectives. Toi qui n'es pas vrai et qui est arrivé un peu sur le tard, comment tu as vécu ton implantation au Havre ? Ce que Le Havre évoque pour toi et ce que tu peux imaginer du Havre dans les prochaines années.
D'accord, vaste question. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, moi j'ai acheté une boîte au Havre en 2010, mais je me suis installé en 2015. En fait, je faisais les aérotours pendant 5 ans.
Et ça avait déjà bien évolué. Donc toi, tu as connu Le Havre en 2015.
Alors j'ai connu 2010 à 2015, mais 2010, je connaissais le port, j'ai jamais en centre-ville. Enfin, voilà quoi. Donc on est arrivé en 2015. Et j'ai tout de suite ressenti une ville où il était très agréable de vivre, en fait. C'est une grande ville, mais finalement, on circule relativement bien, des bonnes infrastructures, c'est quand même assez plaisant. Alors, c'est assez l'opposé de l'image qu'on en a.
Alors, c'était quoi l'image que tu en avais ? Parce que, donc, avant 2010, tu savais, tu savais positionner Le Havre sur une carte, mais tu n'avais pas d'idée intramuros.
Ouais, c'est ça. Et encore.
Comme beaucoup de Parisiens qui pensent que Le Havre est à côté de Dunkerque.
Ouais, c'est...
Je passe le message, ça n'est pas à côté de Dunkerque, ouais, c'est juste ça. En face de Deauville.
Exactement. Donc, je n'en ai pas d'image particulière, mais bon, un peu comme Dunkerque, hein, où Calais, tu t'es dit, putain, Le Havre, faut
avoir envie.
Faut avoir envie, quoi. Donc, voilà. Alors, pour la petite histoire, ce qui est marrant, c'est quand je quitte mon entreprise en 2018, beaucoup de membres de ma famille disaient « Ah, tu vas enfin pouvoir partir de là-bas. » Parce qu'ils connaissaient notre maison de campagne, en fait, dans le pays d'Auge, mais pas Le Havre, en fait. Donc, ils disaient « Le Havre, les pauvres, quoi, ils ont été punis de partir là-bas. » Alors que, du coup, je dis « Bah non, au contraire, on est très bien là-bas et on va y rester. » Donc, ils étaient un peu surpris. Puis après, ils sont venus, ils ont compris. Donc finalement... beaucoup de gens ont déjà dû se le dire, mais je pense que le plus dur de Ova, c'est faire venir les gens au Havre. En fait, une fois qu'ils sont venus une fois, ils disent bah ouais, c'est finalement.
C'est pour ça qu'on s'est vertu à Radio Girafe Normandie, ça sert à ça, c'est
mais
de faire venir les gens au Havre.
Et d'ailleurs, je t'en remercie de plébisciter Le Havre. Et je trouve que Le Havre, en fait, les Havrais aiment les gens qui aiment Le Havre. Donc voilà. Et quand moi j'ai redémarré donc en 2018 où je suis parti de zéro, Il a fallu que je me tisse un réseau, etc. Parce que moi, tous mes clients étaient sur Paris dans ma boîte à braise. Donc moi, je me suis installé à La Une, qui était un vrai vecteur de contact.
Lieu dans lequel on
est, où tu parles de Nicolas Sarrazin, effectivement, qui est le fondateur de La Une et qui est un copain aujourd'hui. Et donc, les Havrais aiment les gens qui aiment le or. On était plutôt très, très bien accueillis.
Oui, tu as réussi, parce que 2015, c'est vrai que la ville avait déjà été modifié.
Le tramway existe, l'hôtel de ville est là.
La ville a déjà fait sa mue quand même.
Exactement. Donc, c'était une ville quand même plutôt sympa. Bon, après, ça a se répéré, il faut aimer, objectivement. Mais plutôt dynamique avec le port, avec les bons et mauvais côtés du port, j'en dirais pas plus. Mais par contre, voilà, un vrai attrait. Et
on peut parler de tes enfants d'ailleurs, parce que tes enfants, là, eux sont venus au Havre et ont développé un attachement particulier. Ils sont pas nés au Havre, mais...
Ils sont pas nés au Havre. Ma fille donc, est née à Bagnolet, mon fils est né à Lisieux. Donc mon fils arrive, il est encore tout jeune, il est au début du primaire, ma fille à la fin du primaire. Ma fille n'a pas développé un gros attachement au Havre, globalement. Là, elle est interne à Rouen, elle va partir du Havre. Ouais. Globalement, le Havre, c'est pas son attache. Mon fils, c'est plus le cas, parce qu'il a fait tout son collège, le lycée. Donc lui, il a développé un attachement plus fort au Havre.
Pour ça, il faut emmener des enfants très jeunes.
Mais oui, mais c'est exactement ça. Non, mais accessoirement, il y a quand même des équipements, même que je n'ai pas vu dans d'autres grandes villes. Par exemple, le SEM, mon fils qui fait pas mal de musique, c'est top. Il y a des activités. Il y a la mer devant pour ceux qui aiment la voile. Moi, je suis en Normandie parce que je suis un Breton, donc il fait de l'eau, sinon je suis un peu perdu, quoi, donc, tu vois. Et voilà, non, mais en tout cas, voilà. Et j'ai fait partie de pas mal de clubs business d'entrepreneurs, voilà, il y a plutôt un accueil chaleureux, en fait, au Havre. Voilà.
Et si, en termes, c'est une petite aparté sur l'architecture. Je te demande souvent quel est le monument qui te. Si tu devais décrire le Havre à quelqu'un, quel serait le bâtiment qui te parle le plus? Alors, il y a des bâtiments emblématiques au Havre.
Il y en a plusieurs emblématiques, mais je fais une réponse de Normand, un petit peu des deux. Si je parle d'un bâtiment de l'intérieur, ça serait l'église Saint-Joseph, sans aucun doute.
D'ailleurs, c'est une jolie photo.
Qui est derrière moi dans mon bureau, donc c'est pas pour rien. Voilà, qui est juste extraordinaire. Alors que l'extérieur, c'est quand même assez austère, et puis cet éclatement de lumière, c'est très chouette. Et puis je trouve que ce qu'ils ont fait au bout de la rue de Paris, la Catène, moi j'aime bien l'œuvre d'art moderne, et je trouve que ça donne un rayon de soleil dans cette ville, et puis ça ouvre aussi sur le côté Southampton qui a pris un peu de temps à monter, avec le futur débarcadère des croisières, etc. Donc je trouve que les deux, en fait, font qu'on peut avoir la lumière intérieure, la lumière extérieure, si on veut faire le lien entre les deux univers, quoi.
Et en plus, c'est vrai que c'est assez particulier. On est au Havre, on a cette particularité d'avoir accueilli des œuvres monumentales extérieures, ce qui est assez rare. Il n'y a pas beaucoup de villes en France qui le font. Maintenant, effectivement, je te rejoins sur le côté qu'est Southampton. Il y a une vraie dynamique et je trouve que cette ville est en train... On a souvent critiqué le fait de ne pas avoir de centre-ville.
C'est une vérité, quand même.
Ça, c'est une vérité, mais du coup, on se retrouve avec plusieurs centres-villes. C'est peut-être demain ce qui créera une vraie diversité, mais il faut que les gens viennent habiter. Voir
Ah, mais je suis bien d'accord avec toi.
Bon, écoute, en tout cas, je te remercie de cette interview. J'ai pour habitude de poser une petite question pour terminer cette conversation, pour savoir quel genre de girafe tu es.
Alors pour rester dans les animaux effectivement de africains, etc., je pense que je suis une girafe caméléon.
Qui s'adapte.
Voilà, je sais m'adapter, en fait. Alors j'aime bien la vie sociale, j'aime bien travailler sur plein d'environnements. Je pense que la famille, les amis, les potes, rigoler, c'est plus important que tout le reste. Le reste, on peut s'en passer facilement. Mais mon parcours me montre quand même que j'ai toujours su m'adapter et à tous les environnements, plus ou moins difficiles. Mais voilà, donc je pense que je suis plutôt une girafe. Alors soit camouflage, soit caméléon pour arriver à m'adapter aux environnements dans lesquels je suis, quoi.
Bon, écoute, on va terminer notre conversation sur cette girafe caméléon. Javen, un grand merci. Tu as rejoint maintenant la communauté de la Girafe.
C'est bien, merci beaucoup.
J'étais ravi de pouvoir échanger avec toi. Je vous propose donc de pouvoir retrouver cette interview sur Radio Girafe Normandie.fr. Vous pouvez également la télécharger en podcast sur notre application. À très bientôt. Merci, Javen.
Merci, Raphaël.
Salut, à bientôt.
Au revoir.